essayer en vous demandant toute l'indulgence sur la concentration d'exercice. Bon, d'abord, oui, le client refaçonne l'organisation du travail. Il fait émerger des rôles nouveaux, quelquefois sous le régime de la double contrainte, puisque si je suis conducteur habitué à l'obéissance passive aux signaux, on va me demander de prendre l'initiative d'informer les voyageurs quand il y a un incident dont je ne connais même pas la cause. Et pourtant, voilà, ils le font. Donc, cette façon de refaçonner, c'est aussi un motif de dignité et de fierté. Les analyses qu'on peut faire avec nos salariés montrent un niveau de fierté et d'appartenance dont tous les observateurs externes nous disent qu'il est particulièrement élevé. Un des fondements, mis à part, bien sûr, la qualité du travail à la RATP, mais un des fondements, c'est le rôle économique et social. Je crois que quand ils viennent au boulot, ils ne se posent pas de questions sur l'utilité sociale et économique. C'est vrai dans l'ensemble des corps de métier de l'entreprise. Et toutefois, il nous arrive d'observer des niveaux de présentéisme très différents. Pour ceux qui sont proches des voyageurs et qui savent que s'ils ne sont pas là, ça va manquer, et ceux qui ont parfois un peu plus de mal à percevoir leur rôle. La dignité, c'est aussi effectivement, plus on est proche, plus on est exposé, et plus on a ce sentiment d'utilité. Les évolutions qui sont impulsées par la présence du client et l'évolution de l'organisation en fonction de ses attentes ne sont pas incompatibles avec une persistance forte de la référence au métier. Mais le contenu du métier évolue, évidemment, sous l'influence de ces évolutions, de l'organisation. Et dans cette évolution, je dirais rapidement, hein, j'essaie d'aller vite, que ces contours sont de moins en moins précis, ce qui parfois a quelques problèmes. Que faut-il reconnaître? Question que vous avez posée, j'insiste aussi sur attention aux compétences cachées, attention au bilan de compétences, c'est pas ça qui crée l'emploi. Et je pense que si on n'a pas pris soin de le gérer dans une dynamique de parcours, on se retrouve évidemment avec... Excusez-moi. On se retrouve de temps en temps avec de très belles compétences cachées, mais dont l'utilisation n'est pas possible avec le niveau de frustration qui a été évoqué tout à l'heure. Alors, est-ce que l'argent suffit-il pour reconnaître ? La réponse est non, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas rémunérer, et même ça peut être contre-performant. Je l'explique en quelques instants. La réponse est non. Il ne vous a pas échappé que le plan de régularité de la ligne A, avec 175 journées millionnaires contre une il y a 4 ans, ça crée un petit peu des tensions. Alors, il y a eu un incident de sécurité et nous avons été amenés à entrer dans une démarche qui pourrait déboucher sur des sanctions. C'est en cours. C'est pas notre sujet. Quoi qu'il en soit, réaction des conducteurs. Un, c'est la parole des voyageurs contre la nôtre. Ça ne peut pas marcher comme ça. Deux, c'est parce qu'il y avait des témoignages contradictoires, vous devinez, sur la situation elle-même, permettant d'apprécier la responsabilité du conducteur. Deux, c'est pas parce qu'on est en tête de ligne, pour le coup, qu'on doit porter tous les problèmes et tous les incidents. Donc on est responsable de quelques incidents, nous les conducteurs, mais il y a aussi le matériel, mais il y a aussi la technique, mais il y a aussi les incidents voyageurs et les freins de secours, bref. Bon, donc on ne veut pas être cloué au pilori, corps de métier, seul responsable des dysfonctionnements. Version négociation. Remettez des emplois pour détendre les rythmes et, au passage, saluez le nombre de journées millionnaires par une prime supplémentaire. Les deux ne sont pas incompatibles, ça c'est à voir, mais la réponse en termes de rémunération n'est pas la réponse clairement aux attentes des conducteurs de la ligne. Alors parfois, transformer en avantage social, ça évite de traiter le fond. C'est le cas type d'un certain nombre de pénibilités. On fait une prime qui est substantielle pour que les gens travaillent la nuit. Une fois qu'ils travaillent la nuit, ils ne bougent plus du travail de nuit. Plus éclairant, avant la réforme du régime spécial et après les premières dispositions gouvernementales pour le faire évoluer, donc depuis 1995, et c'était vrai même avant, impossible de parler de la pénibilité de la conduite. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un régime de bonification et qu'à chaque fois qu'on imaginait créer des évolutions favorables, la réponse était « mais vous allez enlever les bonifications ». Et donc, pas de remise à plat des roulements. Enfin, d'aucuns savent bien que dans les années 70, quand on faisait tourner des feux continus, on mettait à plat les roulements avec des grandes idées sur les jeunes préfèrent la nuit mieux payer, enfin bref, qui n'étaient pas forcément totalement justes, mais qui correspondaient à des attentes individuelles. Bon, là, les rythmes alternés n'ont de conséquences fâcheuses sur la santé que depuis que les bonifications ont été supprimées. Attente d'une relation particularisée très forte, ça, c'est vraiment ce qu'on ressent de plus, d'ailleurs souvent contradictoire, c'est-à-dire la tension entre l'identité collective, qui dans nos métiers est assez forte, et l'identité individuelle. Je veux être reconnu pour moi-même. Exemple limite, le jeune cadre qui arrive dans une unité et quelques jours ou deux ou trois semaines après, le patron de l'unité réunit toute son équipe pour faire un séminaire sur le programme d'activité, les objectifs. Il n'est pas invité, il démissionne. D'autant que quand il demande pourquoi il n'est pas invité, on lui dit qu'il n'y avait plus de chambre d'hôtel. On avait réservé avant ton arrivée. Et donc, voilà. Et il a vraiment démissionné pour ça. Ah, conclusion. Donc, sur la centralité du droit, oui. Et sur, quand même, cette tension entre identité collective et individuelle qui va jusqu'à la remise en cause des règles de sécurité. C'est le jeune mainteneur qui se colle un tournevis dans le bras et quand on lui dit ce qu'il faut faire, il répond « c'est mon bras ». J'aurais quand même ajouté, c'est un vrai souci dans une entreprise sécuritaire, j'aurais quand même ajouté une forte demande de sens qu'on retrouve pour les seniors. Il faut des parcours pour les seniors, effectivement, qui permettent d'apprendre et qui continuent à espérer. Et donc, je crois que ça, c'est deux éléments forts qui sont attendus pour que le travail ne soit pas perçu exclusivement comme un univers alimentaire ou aliénant, pour reprendre les propos de tout à l'heure.
Merci vraiment beaucoup à vous.